ta lumière. J'avais envie de mettre en avant le groupe des ados un petit peu ce matin parce qu'il y a plusieurs choses. Et je vais non plus être assez concis, je ne vais pas prendre trop de temps. Mais je pense que c'est important. Ce style de vidéo, il y a plusieurs points qu'il faut que l'on sorte de ça. Le premier, c'est que déjà, vous avez une ado qui a eu à cœur de vous faire partager en quelques vidéos ce qu'ils ont vécu. Et quand j'ai vu le temps que Cassandre a passé pour faire cette vidéo, eh bien, il y a quelque chose qui est là et je veux le mettre en avant parce que je pense que c'est important. Quand vous avez un jeune comme ça dans l'église qui se dit, tiens, moi j'ai vécu une chose forte et je veux la faire vivre à l'église. Et elle a travaillé dessus, elle a passé du temps. Hier soir, elle a fini à temps hier soir. J'ai dit, allez, demain je la passe. Après, ils sont venus me voir, ils me disent, papa, tu vas pas nous faire témoigner devant, hein. Bon. C'est encore une autre chose. Le deuxième point, c'est que, et là, je voudrais vraiment remercier devant vous Rebecca et Michael. Rebecca et Monica. Ouais, je veux vraiment les remercier. Et vous savez pourquoi? Parce que un mois avant cette rencontre, personne n'était là pour accompagner nos ados. On n'avait personne. Et je suis allé voir Rebecca et Michael et j'ai dit, voilà, j'ai besoin d'accompagnants, d'accompagnateurs pour emmener les ados à leur rencontre. Michael m'a dit, bah ouais. Il ne s'est pas dit, je vais en parler à Rebecca. Non, il a dit, bah ouais. Et tout de suite, il a pris les choses en main, il a tout organisé, ils ont tout organisé avec Rebecca. Et voilà, le résultat, il est là. Le résultat, il est qu'il y a eu quelques ados. Donc, il y a Esther qui est allée, il y a Cassandre et Nicolas, il y a Louis qui est allée, il y a une certaine Héloïse qui est une copine d'Esther qui est allée, une jeune fille qui, je pense, ne savait pas où elle débarquait. Quand elle est arrivée là-bas, je pense, je sais pas, tu confirmes peut-être Esther, mais je pense qu'elle s'est dit, je suis dans un monde de fous. Et après, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que tu l'as revu, est-ce que vous en avez reparlé, etc. Peut-être que tu as un témoignage à donner. Si tu as quelque chose à dire, viens le dire, si tu as besoin. Ouais, tu as des choses à nous dire, viens Esther. Viens Esther.
Bah alors, au début, franchement, je lui en avais parlé depuis l'année dernière. Et donc, elle était très réceptive, ses parents étaient d'accord aussi. Mais seulement le jeudi soir, avant le départ, sa mère nous avait appelés, en fait. Et donc, en fait, elle avait fait des recherches sur Internet par rapport à l'église de Mulhouse. Et elle avait vu plein de commentaires du style « c'est une secte », etc., etc. Donc, c'était vraiment... elle ne voulait plus que sa fille aille à The Rencontre. Et donc, Dieu merci, ça s'est bien passé. Elle a quand même pu venir. Et franchement, pour elle, je pense que c'était vraiment une bonne expérience. Elle m'avait dit qu'elle ne regrettait pas d'être venue. Et donc, elle a vraiment été touchée le troisième jour. Elle a pleuré, elle a prié et tout. Parce qu'avant, elle n'écoutait pas trop en fait, ce qui se passait. Et moi, j'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Et donc, je suis allée voir une personne qui... en fait, ils ont un T-shirt où il y a écrit « Je prie pour toi » et on peut parler de plusieurs sujets. Et donc, je lui ai parlé d'Héloïse et elle m'a dit que Dieu lui avait dit qu'il fallait que j'arrête de m'inquiéter et que depuis le début, en fait, peut-être que moi, je ne l'avais pas remarqué, mais Dieu l'avait beaucoup touchée et par la suite, elle a été vraiment touchée. Et donc, voilà.
Eh bien, le fruit, il est là. Le fruit, il est là dans cette jeune fille, Héloïse. Il est là aussi dans nos ados. Hein, je pense qu'Alice et Pierre, vous pouvez témoigner que Louis a vécu les choses bien, d'accord, hein, quand on voit comment il est dans le van, etc. Voilà. Moi, je suis capable de témoigner que mes ados sont aussi remplis quand ils reviennent de ça. Mais il y a une autre chose que je veux faire ressortir, c'est que quand vous voyez la vidéo, je pense qu'à aujourd'hui, on est un peuple qui se doit d'être vivant. Et je suis assez content parce que tout à l'heure, Christiane, quand elle a commencé sa louange, elle a dit « Est-ce que vous êtes vivant ?» D'accord, on va la refaire. Oui. Je vais me mettre là. Est-ce que vous êtes vivant? Oui. La prochaine fois, je le ferai en courant, quand j'aurai perdu à peu près 15 kilos. Et on se doit d'être un peuple vivant. Pourquoi? Parce que je pense, Fred pense, mais je pense que vous pensez la même chose que Fred, c'est-à-dire que vous pensez que on doit chasser toute religion de notre Église. On doit chasser la religion de nos églises, de notre Église. On doit chasser les habitudes, on doit chasser tout ce qui nous empêche d'avancer. D'où vient ta lumière ? J'ai vécu des choses. En l'occurrence, j'ai vécu une expérience cette semaine. Lundi, j'étais dans une salle d'attente chez un médecin. J'étais pas malade, hein, c'est mon métier. Merci pour ce vicaire. Bon, voilà, c'est mon métier, je suis dans les salles d'attente. Bon. Et il y avait un couple de personnes retraitées qui étaient devant moi. Déjà, ça m'a surpris parce que la dame, elle était avec son téléphone, elle a mis le son à fond, elle était en train de jouer dans la salle d'attente. C'est super désagréable. C'était super désagréable. Et elle jouait, elle était là, et puis à un moment, elle passe son téléphone à son mari, et son mari a fait la même chose, il a commencé à jouer. Et il était là, et je pense qu'il jouait un jeu de cartes ou un poker ou je sais pas quoi. Et je les observais du coin de l'œil, j'étais en face d'eux, je les regardais. Et à un moment, le monsieur a gagné. Et vous savez quelle était sa réaction ? Il a fait son signe de croix. Et là, j'ai halluciné. Et donc, j'ai sorti un fusil à pompe. Non, non. Mais je suis resté sans mots par rapport à ça parce que je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi le monsieur qui gagne un jeu de hasard se signe ? Eh oui, superstition, religion. C'est-à-dire qu'il y a des réflexes aujourd'hui, je suis sûr que ce monsieur n'a même pas réalisé de ce qu'il a fait. Il n'a même pas réalisé. Pour lui, c'est tellement naturel de se signer quand il gagne au jeu vidéo, que voilà. Et comme ça, avec le temps et les jours passant, et je me disais, bon sang, et Antoine m'appelle vendredi soir, il me dit, allô Fred, en avant, dimanche tu prêches. Merci Antoine. Et je lui ai raccroché au nez. Mais non. Et je suis là pour vous, devant vous ce matin pour papoter. Parce qu'elle a dit, Christiane, ce matin, vous aimez papoter. Et quand on sait qu'Antoine, on l'appelle pape, on aime papoter. Et ce matin, je papote. Parce qu'Antoine m'a demandé de prêcher, donc je papote. Mais la religion, elle est... Et donc lundi, on a vécu aussi le groupe Croissance. Et il y a quelques personnes qui sont là, qui étaient lundi avec moi au groupe Croissance. Et réellement, j'ai senti quelque chose. Je dis pas que les autres fois c'était pas le cas, mais lorsque je parlais, je pense qu'il y avait quelque chose qui était là, qui demandait d'exploser. Et le thème de mon groupe Croissance lundi, ça a été Nicodème. Est-ce que vous connaissez Nicodème ? Nicodème, on en parle trois fois dans la Bible. On en parle dans le même évangile, dans l'évangile de Jean, on parle trois fois de Nicodème. Mais la première fois qu'on parle de Nicodème, c'est on nous le présente comme un grand scribe, un grand pharisien, enfin pas un scribe, un pharisien. C'est un pharisien, il arrive près de Jésus et c'est lui qui va aborder Jésus et on nous le présente comme ça, comme quelqu'un de très érudit, très religieux. Et au fur et à mesure du temps, et c'est ce que j'ai enseigné lundi, je leur ai dit, regardez, au fur et à mesure du temps, eh bien Nicodème, il est juste là dans la Bible pour donner de l'importance à Jésus. Juste ça. C'est-à-dire que dans la Bible, on se sert d'un homme qui est hyper religieux pour mettre en avant le Fils de Dieu. Parce qu'un religieux est venu voir le Fils de Dieu pour lui dire « Je te reconnais. » Parce que je vois les fruits qu'il y a en toi. Et on voit même, il commence sa phrase en lui disant « Rabbi, maître, un pharisien, un érudit, quelqu'un qui connaît sur le bout des doigts la Torah. » Et on voit que l'homme religieux, au fur et à mesure du temps, et je ne vais pas refaire le groupe Croissance, parce qu'à ce moment-là, ça ne servait à rien que vous veniez lundi, pour ceux qui étaient là. Je ne vais pas le refaire. Mais on voit au fur et à mesure du temps, dans l'évangile de Jean, que, eh bien, pour moi, Nicodème, il devient chrétien. Il perd cette notion de... Alors, on ne sait pas, il n'y a pas vraiment de détails, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, on voit un hyper religieux qui se rapproche de Jésus, qui se rapproche de Jésus, qui se rapproche de Jésus, pour aller même jusque dans le tombeau avec ses aromates, parce qu'il dépense lui-même son argent pour aller embaumer le corps de Jésus. Vas-y Louis. D'où vient ta lumière ? Jésus leur parla de nouveau et il dit, dans Jean 8, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Ce verset, il est super important parce que Jésus parle déjà là d'une relation avec lui. Il parle d'une relation, pas d'une religion, il parle d'une relation. Il dit voilà, je suis la lumière. Christiane a dit tout à l'heure, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est un verset que j'aime beaucoup parce qu'il dit je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et même, je le disais également au groupe Croissance, mais à plusieurs reprises, Jésus parle à Nicodème en disant « en vérité, je te le dis ». Il dit « moi Jésus, moi la vérité, je te dis que ». Et donc là, dans cette notion réellement de partage entre Jésus et l'ensemble du monde, ou même de Nicodème dans l'évangile de Jean, il y a cette relation qui est là. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Est-ce que vous voulez qu'on remette ce verset dans son contexte? Vas-y Louis. Jean 8, 1 à 12. Jésus se rendit, alors j'aime beaucoup, vous allez voir, Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il revint dans le temple. Pourquoi il y a un mais ? J'ai pas entendu. Ah ! Tu m'as séché, Marie. Aïe, aïe, aïe. Je m'attendais à ce que ce soit Solange qui la sorte, celle-là. Ben non, même pas. Si on enlevait le mais, on met par autre chose. Jésus se rendit au mont des Oliviers, puis, dès le matin, il revint dans le temple. Et tout le peuple s'approcha de lui. Là, ce serait quelque chose de logique. Mais ce mais, moi, il me travaille. Il me tracasse, ce mais. Tout simplement parce que Dieu a dit à Jésus, repars. Repart. Jésus a reçu dans son cœur, il a dit, voilà, je suis au mont des Oliviers, il faut que j'aille dans le temple. Ok, Père, j'y vais. Et il y va. Soulignez-le ça dans votre Bible, le mais là. Parce que la relation avec le Père est importante là. Pas de religion, relation. Et tout le peuple s'approcha de lui, il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Dans un temple. C'est-à-dire que les pharisiens, ils sont là tout le temps pour piéger Jésus. Donc les pharisiens, il faut savoir que c'est une secte, les pharisiens. C'est des hyper religieux. C'est une secte. C'était des gens qui aimaient paraître, avoir les meilleures places. C'était des érudits hein, quand même. Malgré tout, ils connaissaient bien leur Torah. Ils aimaient ça. Et c'est d'ailleurs le côté un petit peu spécial dans la Bible. C'est que Jésus pourrait très bien mettre en avant cette consécration qu'ont les pharisiens. Ils disent, voilà, ce sont des gens qui passent du temps dans leurs paroles pour pouvoir mieux connaître le Père, alors dans le sens loi du terme, entendons-nous bien. Et ils pourraient très bien dire, ben moi, je suis content de ce que vous faites. Moi, si demain, il y a quelqu'un qui me dit, Fred, mais je passe 5 heures dans ma Bible à l'apprendre par cœur, je serais assez surpris et content de voir que quelqu'un est capable de passer 5 heures dans sa Bible par jour. Par contre, je lui dirais, oui, mais est-ce que tu lis la Bible comme un bouquin ? Est-ce que pour toi, la Bible, c'est un bouquin ? Parce qu'à ce moment-là, autant que tu lises le dernier Harry Potter. Et c'est pour ça aussi que Jésus, dans la Bible, à chaque fois, il s'en prend aux pharisiens. Il s'en prend aux pharisiens, tout le temps. Donc ils amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Donc là, on ne parle pas de l'homme, on parle de la femme. L'homme, on ne sait pas où il est. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. » Cette phrase, elle est terrible. Cette phrase, elle est terrible. Elle est terrible, cette phrase. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune considération de personne. On est dans une obéissance avec les œillères, comme on met aux chevaux, vous savez. Les chevaux, ils marchent, ils ont des œillères, ils ne voient pas ce qui est à côté. Il faut savoir qu'un cheval vous voit 7 fois plus gros que vous êtes. D'accord ? Sa vision est comme ça. Donc on évite de faire en sorte que le cheval voit ce qui se passe sur les côtés. Parce que s'il y a n'importe quoi qui passe, lui il voit devant. Et là, eh bien, les pharisiens, ils ont des œillères, ils voient la loi, et la loi dit, une femme qui est surprise en flagrant délit d'adultère, on la lapide, on prend des gros cailloux et on l'écrase. On la tue. Alors que Jésus est là et lui, il apporte autre chose qu'une religion. Il est là pour faire autre chose. Il est là pour apporter quelque chose de nettement meilleur, avec un bon fruit, quelque chose qui va permettre de se dire, ok, moi, eh bien, cette relation que je vais avoir avec Dieu, c'est pas d'aller tuer des gens, mais c'est de pouvoir, au contraire, être avec une notion de pouvoir avancer, de faire quelque chose de nettement meilleur. Est-ce que vous avez envie plus d'avoir cette relation que cette religion? Est-ce que vous avez envie, quand vous gagnez au jeu vidéo, de vous signer? Une fois, je me suis amusé. Je m'amuse. Vous savez que j'aime bien. Je suis assez taquin. Ça va? Vous le saviez, ça, non? Merci, Antonia. Mais j'étais à table. J'étais dans une agape. Vous savez, on appelle ça les agapes dans les églises. J'étais dans une agape. C'est pas ici, hein. Je vous rassure, ici, on est bien. Et j'étais à côté d'une dame d'un certain âge. D'accord? À peu près 60 ans. Je plaisante. Non, une dame nettement plus âgée. Mais, et je sais, pour moi, par rapport à mon éducation, il y a des choses qu'on ne faisait pas dans les maisons, qui avaient une éducation catholique. Et à un moment, je prends la baguette, et je me coupe un morceau de pain, et je savais pertinemment quelle allait être la réaction de cette dame. Et donc, j'ai posé la baguette en la mettant sur le dos. J'en ai fait exprès. Oh, je ne suis pas gentil. Et la première action de cette dame, vous savez ce que c'est? Elle a remis la baguette sur le ventre. Parce que, eh bien, on dit bien qu'on ne gagne pas son pain sur le dos. D'accord? Ça, c'est une tradition. Dans des milieux avec une éducation comme ça, on ne met pas le pain sur le dos. Et voilà, toutes ces notions d'occultisme. Parce que c'est de la superstition. La superstition, c'est l'occultisme. Tout ce qui vous permet de dire, voilà, moi, je ne vais pas croiser un chat noir, je ne vais pas passer sous une échelle, je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela, je ne vais pas mettre une cravate verte à petits poils lundi parce que ça porte malheur. C'est de la superstition. La superstition, c'est de l'occultisme. Et l'occultisme est une abomination aux yeux de Dieu. Ça va, j'ai choqué personne? On est sur la même longueur d'onde? Ouais. Et c'est là où Dieu est chagriné. Je pense que la Bible, quand elle nous dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit, bien oui, on peut l'attrister. Moi, j'ai été attristé un jour quand on est allé, et là je vais en choquer aussi, mais avec Pascaline, on a visité le Vatican. Et dans le Vatican, il y a plusieurs églises, bien évidemment, on avait une guide qui était là. Et à un moment, elle nous dit, voilà, l'église, elle est faite pour avoir de l'or, etc., pour attirer les gens, c'était ça. Mais à un moment, elle nous montre sur le sol, je vais tomber, voilà. Elle nous montre sur le sol, elle dit, regardez, là, sur le sol, sur tout le long, vous avez les signes astrologiques. Dans une église. Oui? On avait les signes astrologiques. Elle a dit, regardez maintenant, dans le plafond, vous avez un petit trou là. Et quand le soleil est clair, eh bien, il éclaire le signe astrologique du moment. Voilà, mais c'était comme ça au temps. Et en fait, l'homme, au fur et à mesure du temps, a créé sa religion, a créé sa relation avec Dieu, mais dans le mauvais sens du terme. Et donc là, eh bien, les pharisiens apportent une femme et leur religion leur fait dire qu'ils vont tuer cette femme. Alors que Jésus, lui, va prendre les choses différemment. Moïse dans la loi, donc là, ça, hop, on passe au verset 6, il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Alors que dans Jean 3, il y a comment dire, Nicodème qui va voir Jésus et qui dit « Nous avons vu ton fruit ». Nous avons. Il parle à la première personne du pluriel. Il dit, nous avons vu ton fruit. On sait que tu as la puissance de Dieu en toi. Et à chaque fois, les pharisiens reviennent à l'attaque. Ils reviennent à l'attaque. Et là, dans le chapitre 8, eh bien, ils continuent. Ils remettent un piège devant Jésus. Donc, il disait ça afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Imaginons la scène. Vous avez tout un groupe de pharisiens qui est là, qui arrive. Et Jésus, lui, tout gentiment, il dit rien. Il va commencer, il est dans le temple. Il va s'asseoir, et puis ça veut dire, courez toujours les gars, vous m'intéressez. Mais, et les pharisiens sont là, ils sont devant lui. Et j'aurais aimé voir la réaction des pharisiens, pour qu'ils disent, ils devaient s'impatienter. Ils devaient dire, oh, attends, on est quand même les pharisiens, c'est nous. Oh, Jésus, réveille-toi, fais quelque chose. T'es un peu effronté, là, t'es devant nous. Puis tu commences à écrire dans le sol, sur le sol. Comme il continue à l'interroger, donc il s'impatientait, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Boum, allez, ça c'est fait. Toi, tu juges. Dans ta religion, tu te permets de juger quelqu'un? Tu te permets de juger quelqu'un? Alors que toi-même, dans ta vie, tu n'es pas carré? Et c'est là où il faut qu'on réagisse, il faut qu'on puisse avoir ce discernement. Et je pense que Dieu demande ça et appelle à ça. Que l'on puisse chacun ici se dire, voilà, à quel niveau est-ce que je suis bon, moins bon, moins bon? Parce que Jésus a eu la bonne réaction. Jésus aimait déjà cette femme. Il avait déjà cette femme devant lui, il l'aimait déjà. Il avait un cœur de berger. Il avait un cœur à se dire, mais moi cette femme, je lui veux que du bien. Parce que cette femme, eh bien, il faut qu'elle puisse revenir dans une bonne voie. Puis il se baissa et de nouveau se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y désormais, ne pêche plus. » Et donc, le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Avoir la lumière dans son cœur, c'est quelque chose qui... Il n'y a rien de plus important d'avoir cette lumière dans son cœur. Voilà, je l'ai mis dans un autre sens. Jésus est là pour pouvoir éclairer nos chemins. Il le dit lui-même. Il est là pour pouvoir mettre à jour des choses que l'on doit changer et arriver à faire en sorte que l'on puisse être des combattants, des combatifs, et qu'on puisse aller de l'avant, toujours, toujours et toujours, pour pouvoir se dire, ok Seigneur, je veux t'être agréable. Et ne pas avoir des réactions, quelles qu'elles soient, à pouvoir se signer dans certaines circonstances, à pouvoir utiliser des superstitions, à se dire, tiens, moi je vais au culte le dimanche, et une fois que je suis allé au culte, eh bien je suis tranquille, je suis sauvé. Jésus veut plus que ça pour toi. Jésus veut plus que ça pour toi. Le principe d'aller à l'église le dimanche ne fait en rien de toi un serviteur de Dieu. Oula, Fred, tu vas fort ce matin. Non, je suis obligé de vous dire la vérité. Je suis obligé de vous dire que Dieu veut plus pour toi. Il veut plus de toi. Il veut plus de moi, il veut plus de nous, il en veut plus encore et plus encore et plus encore. Parce qu'il a tellement des plans merveilleux pour toi qu'il veut absolument pouvoir te dire et avoir cette relation et de pouvoir dire « Ok, on y va, on avance. » Je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand Jésus dit ça, il a tout dit. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le chemin, si tu suis le chemin, la finalité, c'est la vie. Si tu suis la vérité, la finalité, c'est la vie. Si tu acceptes la vie, tu es sur le bon chemin. Si tu acceptes la vérité, tu as la vie. On peut le mettre dans tous les sens. Parce que Jésus, en une seule phrase, a tout dit. Et c'est là où il faut qu'on puisse avoir ce bonheur. Avoir ce bonheur. Est-ce que ce matin, vous avez cette joie de vous dire, Seigneur, moi je suis là pour toi, rien que pour toi. On a vécu, c'est vrai, des moments bénis dans la louange. Peut-être là, dans la parole, il y a des choses qui vont vous révéler, qui vont se révéler à vous. Mais il faut d'abord et avant toute chose pouvoir dire, je suis venu à l'église quand vous allez rentrer chez vous. Ce n'est pas vous dire, bah, tiens, moi je vais prendre une aile ou une pâte. Mais c'est de se dire, je veux pouvoir avoir vécu quelque chose de nouveau encore, et de nouveau encore, et de nouveau encore. Est-ce que ça vaut le coup de vous dire que le premier miracle que Jésus a fait, c'est de transformer l'eau en vin? Et que non seulement il a transformé de l'eau en vin, mais il a mis ça dans des outres neuves. Il a fait en sorte que l'on puisse montrer qu'on est capable de transformer quelque chose de commun en quelque chose de hors de commun, hors du commun. Et en se servant de choses nouvelles. Ça va, ça? Il a transformé de l'eau, qui est la boisson, on va dire, la universelle. C'est-à-dire que tous ici, on a bu de l'eau. Tous ici, on boit de l'eau. même si des fois elle est transformée en bière. Mais à la base, il y a de l'eau. Et il est allé à l'encontre de toutes les notions de fabrication, tous les secrets de fabrication du bon vin. Jésus est allé à l'encontre. Et aujourd'hui, vous voyez les médias qui se moquent en disant « Ouais, il a changé l'eau en vin. » Ou Jésus, l'autre fois, j'ai vu une blague humoristique. Il y a un apôtre qui est dans l'eau, et puis il y a Jésus qui marche sur l'eau. Il dit « Viens, elle est bonne. » Des choses comme ça. Jésus, il était là pour choquer les gens. Il était là pour choquer parce qu'il apportait des choses nouvelles. Le fait qu'il marche sur l'eau, c'était pas... Est-ce que c'est vraiment utile? Non, il a voulu montrer sa puissance. Et la puissance de Dieu, elle est vraiment la puissance de Dieu. Elle est vraiment la puissance de Dieu. Eh bien, je vais te dire une chose, c'est que cette puissance, tu l'as dans ton cœur. Tu l'as en toi. Tu l'as en toi, sauf que des fois, la puissance de Dieu, tu l'utilises un petit peu trop avec ton cerveau et un peu moins avec le cœur. Ou Fred, la puissance de Dieu, tu l'utilises un peu trop avec ton cerveau et un peu moins avec ton cœur. Et ouais, parce que Jésus, il était puissant. Il avait cette puissance. Vous vous rendez compte là de cette situation? Imaginez, mettez-vous à la place de Jésus. Imaginez, vous mettez à la place de Jésus, vous avez plein de grands religieux qui arrivent et qui viennent vous voir avec dans les deux mêmes, enfin peut-être pas avec un adultère parce qu'aujourd'hui c'est devenu un peu commun, mais avec autre chose. Et Jésus nous demande d'aimer des fois, à la fois des délinquants mais aussi les religieux. Et on en rencontre des religieux. Des gens qui viennent nous dire « Mais oui, mais pourquoi dans l'église vous ne faites pas ça, ou vous n'avez pas ça, ou ceci ou cela ?» Pourquoi ? On en a. Vas-y, Louis. Ce matin, ouais, j'étais remonté quand même par rapport à ça. L'aspect religieux est pour moi vraiment un frein important dans l'église. Non pas, je ne dis pas, attention, je ne suis pas là pour incriminer, je ne suis pas là pour accuser, ce n'est pas le but. C'est pas le but. Le but, c'est de mettre une lumière sur des points qui pourraient nous permettre d'aller encore de l'avant. Comme Antoine dit, en avant. Parce qu'Antoine, il aime bien abolir des choses. Il aime bien dire ça, c'est pas utile dans l'Église. Et quand on parle, eh bien, on le voit et on le sent. Il y a des choses qui ne sont pas utiles dans l'Église. Par contre, il y en a d'autres où on doit mettre un accent dessus pour pouvoir dire, OK, Seigneur, on veut être agréable avant toute chose et on veut mettre les choses en place pour pouvoir être agréable toi et toi seul. Et la religion engendre de l'hypocrisie ou des coutumes. Ça engendre pas mal de choses. Mais on est là pour être agréable à Dieu. On est là pour avoir un cœur sincère, un cœur pur. Un cœur qui nous permet de dire, Seigneur, ok, je viens tel que je suis, parce que je vous rappelle que Dieu regarde au cœur. Mais je viens tel que je suis, et mon cœur, il est pour toi. Mon cœur, il est pour toi. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? J'ai l'impression que je dois avoir assommé. Mais c'est bien. Il faut se servir du quotidien. J'aurais peut-être dû dire à cet homme, pourquoi vous avez fait ça? Il y avait plein de monde dans la salle d'attente, le médecin était en retard d'une heure et demie. Mais j'aurais peut-être dû lui mettre la lumière, lui dire, voilà, monsieur, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que pour vous, votre foi, ça réside dans ça? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que Jésus veut pour vous? Et c'est ce qu'on fait. Quand Thierry va dans la rue, quand il sort, il fait ça. Il va voir les gens pour aller apporter la bonne nouvelle. Jésus a dit, je suis venu ici pour accomplir des choses et pour apporter la bonne nouvelle. Je suis là pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus le dit. Et si on pouvait répertorier tous les versets, il faudrait qu'on le fasse. Tous les versets où Jésus est super positif en disant, voilà, moi je vais faire ça dans ta vie. Toutes ces promesses qu'il a données, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, comment il a encouragé les gens, même ne serait-ce que cette femme adultère, comment il l'a encouragée. Et elle dit, voilà, moi non plus je ne te condamne pas. Est-ce qu'il lui a dit sur un ton de colère? Est-ce qu'il l'a dit avec un ton de compassion? Je pense que Jésus avait une énorme compassion dans son cœur. Il savait se fâcher quand il fallait se fâcher. Il savait être compatissant quand il fallait être compatissant. Et je pense que devant cette femme adultère, il avait ce cœur compatissant, en disant, ok, tu as fait une erreur. C'est vrai que la loi, normalement, devrait te lapider. Mais moi, je suis venu, non pas pour faire que tu meurs, mais pour te dire, au contraire, demain est un autre jour. Arrête. ne pêche plus. Il lui a dit quand même, il l'a remise en place. Il lui a quand même dit, ne pêche plus. Mais par contre, remets ta vie en ordre. Remets-la sur les bons rails. Fais en sorte que ton Dieu puisse être content de toi. Puisse être content de toi. Un jour, j'ai lu une histoire assez amusante. C'est un membre d'une église. Alors, je ne vais pas dire un homme ou une femme, parce que c'est un membre d'une église qui va voir son pasteur et qui lui dit, pasteur, je quitte l'église. Et là, le pasteur lui dit, mais pourquoi ? Bah parce qu'il y a un tel qui a dit ça sur moi, parce qu'un tel, j'aime pas comment il s'habille, etc. Elle donne une liste. Et le pasteur lui répond, on dit, voilà, dimanche prochain, tu vas venir au culte un peu en avance, tu vas venir me voir, et on verra ensemble. Et donc, elle arrive la semaine suivante, et le pasteur, sur son pupitre, avait un verre d'eau rempli, bien rempli. Et il lui dit, tiens, prends ce verre d'eau, et tout le temps du culte, tu vas faire des tours d'église. Tu vas faire le tour de l'église. Et donc, pendant tout le culte se déroule et la personne fait des tours d'église avec son verre d'eau. Donc, sans vouloir renverser, vous imaginez. Et donc, à la fin du culte, il l'appelle, il dit, vas-y, redonne-moi mon verre d'eau. Il le prend. Et comment t'as vécu ton culte ? Et donc la personne lui répond, bah, j'ai pas vécu le culte parce que j'étais concentré sur le verre d'eau. Et le pasteur lui répond, reste concentré sur Jésus. Ne te concentre pas sur l'église, concentre-toi sur Jésus. Et à partir de là, tu verras des choses. Il n'y a encore pas bien longtemps, quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « je quitte l'église ». Et je lui ai dit « pourquoi tu quittes l'église ?» Il m'a dit « parce qu'il y a un tel qui dit ça de moi, il y a un tel qui me pose des questions sur ça. » Je dis « moi je suis ton pasteur, je suis ton berger. S'il y a, il y a un tel ou un tel qui te dit des choses contre toi ou qui te fait du mal, tu viens me voir et moi je vais aller la voir. » Parce qu'en tant que berger, je suis là aussi pour protéger l'Église. Et on se doit de protéger, de se protéger les uns les autres. Pas parce que je suis pasteur, mais ton voisin, tu dois le protéger. Tu dois pouvoir lui dire, voilà, on vient à l'Église et on va construire, on va édifier ensemble. On va mettre une brique et une brique et une brique et une brique. Et si un jour vous avez un mur avec des briques qui ne sont pas bien placées, le mur va être branlant et un jour il s'effondrera. Si vous avez un brick qui est bien placé et qu'en dessous vous n'avez pas les bonnes fondations, le mur s'effondrera. Si un jour vous avez un mur et que c'est un mur qui monte jusqu'au ciel, le mur ne sert à rien. Il faut savoir construire et bien construire. Donc dans l'Église, soyons honnêtes avec Dieu. Sachons dire à Dieu, Seigneur, moi je veux le meilleur. Je veux le meilleur, mais je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. Il y a beaucoup de gens, vous entendrez beaucoup de gens qui diront, moi je ne vais plus à l'Église parce que bah, l'Église sur Internet c'est très bien. Mais oui, on est dans un monde de réseaux sociaux aujourd'hui. Hein. Je like. Tiens, ça j'aime bien, je like. Est-ce que tu vas, si tu vois quelque chose sur Internet, est-ce que tu vas aller voir la personne pour lui dire ce que tu as mis sur Internet ? Bien. Non, tu like. Ou tu dislike. Ça se dit disliker ? Moi, je dislike. C'est-à-dire que j'aime pas. Par contre, la personne, je ne vais pas lui dire. Et puis je critique. Ah oh ouais, je suis caché derrière mon écran, donc je peux me permettre de mettre un commentaire bien épicé. Ah oh ouais, oh non, t'es nul. C'est pas ça l'Église. L'Église, c'est de pouvoir être rassemblés tous, pouvoir se regarder droit dans les yeux. Et vous savez que j'aime regarder droit dans les yeux. Pour pouvoir dire, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Dans l'Église, on ne recrute pas. Il n'y a pas de recrutement dans l'Église. Dieu vous aime tous au même point. Tu ne seras pas meilleur que ton voisin parce que ton voisin, il est dans la musique. Il joue de la guitare, il joue du clavier, ou il s'occupe de la sono. Ou tu n'es pas moins bon que lui. Dieu t'aime tout autant. Parce que l'Église, c'est un corps. Et c'est un corps que l'on doit préserver parce que la Bible nous dit que Jésus reviendra chercher son Église. Il reviendra chercher son Église. Vas-y, Louis, passe-en une. Après la suivante, on va la passer. Encore une. Ah non, celle d'avant, remets-la. Voyez la nuance entre la religion et la relation. Vous savez que c'est un point qui me tient à cœur, la religion, la relation. Avec la religion, on est beau à l'extérieur. On est beau à l'extérieur avec la religion. Par contre, avec la relation avec Dieu, on est d'abord beau à l'intérieur. Et ce que Dieu met dans ton cœur et ce qui va prendre de l'ampleur, un jour n'aura plus de place dans ton corps et forcément ça va sortir de ton corps et ça se verra à l'extérieur. Parce que Dieu, il veut faire en sorte que tu aies un cœur. Il faut savoir qu'un cœur, c'est gros comme un poing. Mon cœur, il est gros comme mon poing. Mais Dieu, il veut faire grossir mon cœur et grossir mon cœur. Attention, c'est du figuré. Hein. D'accord ? Je ne vais pas avoir la poitrine qui va exploser. Ça va, on est d'accord ? Mais Dieu veut faire grossir mon cœur et grossir encore, pour que ma relation avec Jésus, eh bien, déjà, elle soit belle à l'intérieur, parce que Dieu regarde d'abord au cœur, pour que après à l'extérieur, je puisse rayonner. Et qu'un jour, Dieu m'enseigne le sourire. Surtout à moi. Arnaud, tu prends tes affaires et tu sors. Monica, tu prends tes affaires, tu sors. Parce que tu as ri à la plaisanterie d'Arnaud. J'ai dit quoi ? Et depuis ce matin, j'arrête pas de dire Monica aux gens. Monica, donne-lui une baffe. Bon, ça va Monica ? Tu m'en veux pas ? Elle est partie avec les enfants. Ah ! Monica, tu devais entendre le prêche ce matin. Si tu m'entends, Monica, reviens. Comment tu t'appelles déjà ? Ah oui, c'est vrai. Ah là là. Allez, la dernière dia. Vas-y. Où est ta lumière ? Où est ta lumière ? Et ce sera ma conclusion. Ouais. Branche-toi sur Jésus. Branche-toi sur la bonne prise. Il peut y avoir plusieurs prises sur le mur. Choisis la bonne. Choisis la bonne. Lundi, je me suis amusé, j'ai dit, voilà, à certains, je disais, vas-y, imagine un chien noir. Boum, vous voyez le chien noir. Vous l'avez vu, le chien noir. D'accord ? Maintenant, ne pensez surtout pas à une île paradisiaque avec des palmiers. Vous l'avez vu, la plage ? Je vous ai demandé de ne pas y penser. Je vous ai dit, ne pensez pas à une plage paradisiaque avec des palmiers. Et vous y avez pensé ? Non ! Arrêtez de voir un perroquet bleu. Oh ! Qui c'est qui l'a vu, le perroquet bleu ? Voilà, branche-toi sur Jésus. C'est là qu'est le meilleur. C'est là qu'est le meilleur. Clairement, je pense que je pourrais prendre un à un ici. Tout ce que je vous ai dit ce matin, vous le savez déjà. Qui ne le savait pas, ce que j'ai dit ce matin ? Quels sont ceux qui ne sont pas conscients que dans la religion, on doit l'enlever des églises ? Qui ? Mais c'est toujours bon de l'entendre. C'est toujours bon de l'entendre et toujours mettre un point. Des fois, il y a des petits points comme ça, vous allez mettre votre doigt. Là, imaginons, j'ai une plaie sur mon bras. Et bien, si je vais appuyer sur ma plaie, ça va me faire mal parce que j'ai une plaie. Si je n'ai pas de plaie, que j'appuie avec mon doigt, j'ai pas mal. J'ai mal que si j'ai la plaie. Et bien, la plaie, il faut la soigner. Et bien, c'est ça. Si tu te branches sur Jésus, forcément, tu auras une bonne lumière. Tu auras une bonne lumière. On va se lever. J'arrête là. C'est déjà bien ce que j'ai dit. Et je voudrais qu'on prie, que quelques-uns élèvent sa voix. Vas-y, s'il te plaît, Sergio, si tu peux jouer doucement. Que quelques-uns élèvent leur voix. Et même si dans ta prière, tu dis des choses que tu penses devoir confier à Dieu, dis-les. Et toi qui vas écouter sa prière ce matin, surtout ne juge pas la prière. Parce que la prière que la personne va élever à son Dieu, c'est bien la prière qu'il va élever à son Dieu. Donc si tu as besoin de dire des choses à Dieu, profite qu'on va jouer de la musique. Peut-être que même dans un brouhaha, prions tous ensemble. Et allez-y, dites au Seigneur, « Seigneur, oui c'est vrai, eh bien, la semaine dernière, moi je me suis signé. » Sans faire exprès, ça m'a pris comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait mon signe de croix. Ou voilà, j'ai vu une échelle et je n'ai pas voulu passer en dessous parce que j'ai eu peur. C'est voilà, Seigneur, j'ai des choses dans mon cœur qui me font dire que je ne te suis pas de la bonne façon. Je suis dans une voie parallèle qui est un peu plus sinueuse, alors que je pourrais être sur la voie, sur l'autoroute avec toi et aller plus vite. Seigneur, moi je veux vraiment te remettre ma vie en ordre devant toi ce matin. J'ai des choses qui ne sont pas bonnes et je veux réellement pouvoir être purifié de ça ce matin. Je veux réellement, Seigneur, que tu puisses prendre mon cœur et faire un grand lavage avec du pec citron, avec du mire vaisselle, peu importe, mais que mon cœur soit propre devant toi pour que toutes ces choses qui ne sont pas de toi puissent disparaître. Seigneur, j'ai besoin que ma vie soit dans l'ordre, que ma vie soit en règle. Si j'ai des choses qui sont vraiment aussi, des fois des petits détails, mais j'ai des choses un peu plus grandes. Seigneur, peut-être que ce matin, il y a des colériques qui sont ici. Des gens qui ne savent se défendre que par la colère. Seigneur, le Seigneur veut te guérir ce matin de cette colère. Il veut te guérir de cette colère. Oh Seigneur, tu es tellement grand et glorieux, Jésus. Oh Jésus. Seigneur. Coranda catarai do chato fararai. Coraido chata tararai.